Bonsoir. Le conflit sur la loi travail tourne au bras de fer entre le gouvernement et la CGT. Le syndicat bloque les raffineries pour faire plier le pouvoir socialiste. Une stratégie qui inquiète de nombreux députés. Dans ce journal, les reportages de Jérôme Jadot et Stéphane Robert et le commentaire de notre invité, l'historien Stéphane Sirot, spécialiste du syndicalisme. La Méditerranée a été moins meurtrière pour les migrants ce début 2016. C'est la conséquence d'une diminution des flux migratoires en provenance de Turquie. Nous verrons cela avec Isabelle Labéry. En Autriche, le populiste Norbert Hofer tire les leçons de son échec à la présidentielle en annonçant de futures victoires. Le reportage à Vienne de Bertrand Galichet. La CGT a donc choisi l'arme du carburant pour obtenir du gouvernement le retrait de la loi travail. Le syndicat affirme que les 8 raffineries françaises sont désormais en grève. Alors certaines sont effectivement à l'arrêt, d'autres fonctionnent au ralenti. Il y a enfin le cas de la raffinerie d'ExxonMobil à Notre-Dame de Gravenchon, près du Havre. Les grévistes y sont loin d'être majoritaires, comme a pu le constater Jérôme Jadot.
C'est la deuxième AG du jour et au milieu des drapeaux syndicaux, une trentaine de salariés sont venus brandir des affichettes non grévistes.
Combien d'actions gratuites on vous donne pour ça ?
Cela crée quelques remous avec les militants FO et CGT, mais pour ce technicien et cet ingénieur, la grève est bien néfaste.
J'ai absolument pas envie que nos actionnaires américains aient le sentiment que le salarié d'Exxon veulent casser leur outil de travail.
On ne doit pas confondre les revendications qui sont nationales avec un engagement qui pour nous est notre avenir.
Mais l'avenir pour Johan, gréviste non syndiqué, est concrètement menacé, dit-il, par le projet de loi travail.
Tous les points en fait qui ont été abordés, les heures sup et les repos hebdomadaires, etc. Donc il y a pas mal de choses en fait qui nous concernent directement. On est mieux à défendre tout de suite dès le départ plutôt que d'attendre que ça passe et après défendre contre notre entreprise.
Tout ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait aucune goutte de gasoil et d'essence qui sortent de cette plateforme.
Ce qui gêne aussi les non-grévistes, c'est qu'un petit nombre de salariés, 10 à 30 selon le moment de la journée, puisse créer beaucoup de perturbations. Ça s'appelle le droit de grève, répond Laurent Delaunay, délégué central CGT Exxon.
Même une minorité de salariés a le droit de s'exprimer et la conséquence en est une perturbation du fonctionnement de la raffinerie. Puisqu'on parle de minorité, moi je voudrais connaître la majorité qu'a le président de la République actuellement, y compris dans ses rangs.
Majoritaire ou minoritaire, la grève pourrait de toute façon vite devenir ici théorique, puisque le terminal pétrolier qui alimente la raffinerie en brut cesse lui le travail ce soir.
Jérôme Jadot, outre les raffineries, de nombreux dépôts pétroliers sont bloqués. Ce matin, les forces de l'ordre ont évacué le site de Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône. Emmanuel Valls promet d'autres évacuations. En attendant, la ruée des automobilistes sur les stations-service alimente, si l'on peut dire, la pénurie. D'après le secrétaire d'État au transport Alain Vidalis, 20% des 12 000 stations françaises sont à sec. Une situation chaotique qui suscite l'inquiétude de la classe politique. Stéphane Robert, vous étiez à l'Assemblée cet après-midi et à gauche comme à droite, de nombreux députés mettent en cause la CGT.
Oui, du côté de l'exécutif comme des parlementaires à l'Assemblée nationale, on est bien conscient que cette histoire est en train de tourner au bras de fer entre Manuel Valls et la CGT et même les députés socialistes frondeurs estiment désormais que ça peut mal se terminer, à commencer par leur chef de file Christian Paul, député de la Nièvre, dont le discours en quelques jours a beaucoup évolué.
Il y a eu un durcissement politique avec l'article 49.3. Donc c'est vrai, il y a aujourd'hui raidissement des positions syndicales. Et donc je pense qu'au point où on est rendu, la seule solution, c'est les chemins du dialogue qu'il faut retrouver.
Mais revenir au dialogue, essayer de renégocier, est-ce encore possible ? À droite, beaucoup pensent, comme Philippe Gosselin, député Les Républicains de la Manche, qu'on n'en est plus là et que Manuel Valls n'a pas d'autre choix que de rester ferme et de continuer à faire appel aux forces de sécurité.
Aller plus loin, c'est vraiment se déculoter. Il ne doit pas enlever ce texte. C'est politiquement, pour moi, impossible aujourd'hui. Et il ne doit pas se déculoter devant ceux qui bloquent les raffineries et qui veulent entraîner le pays dans le chaos.
Et à gauche également, enfin chez les députés qui soutiennent encore ce gouvernement, comme le socialiste Malek Bouti, il affirme lui aussi que Manuel Valls ne doit pas, ne peut pas céder.
À un moment ou un autre, quand quelqu'un sort un pistolet, faut lui dire on va voir si t'as les couilles d'aller jusqu'au bout. Voilà. Et on va voir si la CGT, ils sont prêts, une sorte de petit golpé en France, etc. Une sorte de petit coup d'État. Pour qui ils roulent au bout du compte ? Parce que au bout de leur comportement, il n'y aura pas un candidat issu de la philosophie CGT qui va gagner aux élections présidentielles, mais quelqu'un d'extrémiste, le Front National.
À l'Élysée comme à Matignon, on fait cette même analyse que la CGT est en train de livrer là. Une guerre syndicale coincée d'un côté entre l'éternel rival CFDT et de l'autre le concurrent Sud qui lui grignote des parts de marché sur le plan de la radicalité. Mais on pense aussi que sur le plan politique, ce combat ne peut pas dégénérer parce que le mouvement et les blocages, un, ne sont pas populaires et aussi parce qu'il n'y aura pas de pénurie, dit-on au gouvernement, parce que d'ici quelques jours, la situation va se débloquer.
Stéphane Robert, merci. Invité de ce journal, l'historien Stéphane Sirot, enseignant à l'université de Cergy-Pontoise, spécialiste du syndicalisme. Bonsoir.
Bonsoir.
Stéphane Sirot, on l'a entendu à l'instant, le frondeur socialiste Christian Paul évoque le tournant du recours au 49-3 pour faire passer la loi travail à l'Assemblée. Comment analysez-vous ce tournant dans le conflit actuel ?
Avant l'utilisation du 49-3 par le gouvernement, on avait un mouvement social qui était plutôt porté aux avant-postes par les lycéens, par les étudiants, avec derrière un petit peu plus, en apparence dans leur sillage, les organisations de salariés, CGT, FO et quelques-uns de leurs partenaires naturels, avec des journées d'action interprofessionnelles très espacées, 15 jours, 3 semaines entre deux journées d'action. Et puis, du jour où le calendrier parlementaire s'est accéléré, où le gouvernement a utilisé cet article 49.3, on a vu le mouvement social changer de nature. Les syndicats de salariés, la CGT en tête, prenant les avant-postes du mouvement, et trois éléments nouveaux. Le premier, les journées d'action interprofessionnelle rapprochées, deux la semaine dernière, une jeudi prochain. À quoi il faut ajouter des appels à des grèves reconductibles et à quoi il faut encore ajouter un certain nombre de pratiques et d'actions de blocage, comme on le voit aujourd'hui, autour des dépôts de carburant. Donc il y a eu de fait un changement de physionomie et une accentuation, une accélération de la mobilisation sociale portée par la CGT, corrélativement à l'accélération du mouvement par le pouvoir politique. Les deux étant en France toujours très, très liés, le mouvement social et le champ politique, la dialectique entre les deux en France est toujours quelque chose de très présent dans les moments de tension sociale.
Donc ça veut dire que le gouvernement a une large part de responsabilité dans cette supposée radicalisation de la CGT ?
Oui, forcément, je dirais, parce qu'on ne se radicalise pas tout seul. La radicalisation, comme tout fait social, parce que c'en est un, c'est quelque chose qui met en jeu plusieurs acteurs, qui met en jeu l'acteur syndical, qui met en jeu l'acteur gouvernemental, et qui, d'une certaine manière aussi, met en jeu l'acteur européen, parce que ça me semble être une dimension qui est assez peu soulignée. Mais ce qui crée ce contexte de radicalisation assez généralisé est que le gouvernement n'a aucune marge de manœuvre de négociation désormais. Il n'y a plus de possibilité d'arriver à une forme de compromis.
Oui, parce que la CGT réclame le retrait pur et simple du texte.
Et puis par ailleurs, le gouvernement a déjà fait un certain nombre de concessions, de fait, et il ne peut pas aller plus loin. Parce qu'aller plus loin, ça voudrait dire deux choses. Ça voudrait dire d'une part vider totalement le projet de loi de sa substance, mais ça voudrait dire aussi, finalement, ne pas respecter des engagements européens. Parce que on se souvient que l'an dernier, en mai 2015, la Commission européenne avait envoyé un courrier à Michel Sapin, lui demandant clairement une réforme du marché du travail, s'accompagnant notamment d'un assouplissement des normes au niveau des entreprises, de davantage de décentralisation des relations sociales vers l'entreprise, pour davantage d'adaptation, pour davantage de flexibilité. Et donc, au fond, une grande partie de ce qui est inscrit dans la loi El Khomri correspond également à ces engagements européens. Donc, si le gouvernement concédait désormais quoi que ce soit, il viderait non seulement la loi de sa substance, mais par ailleurs, il s'éloignerait d'un certain nombre d'engagements qu'il a pu prendre vis-à-vis des institutions européennes.
Alors, à partir de là, quelle peut être la solution pour sortir de ce conflit ? Il faudra bien que l'une des deux parties cède.
Oui, forcément. Moi, ce que je pense, c'est qu'on s'oriente certainement vers une situation où le gouvernement campera de toute façon sur ses positions, mais où la reprise, je dirais, d'un climat social plus apaisé sera longue. Elle sera longue pour plusieurs raisons. La première est qu'il y a non seulement la contestation de la loi El Khomri, mais aussi des mouvements plus catégoriels qui se superposent à ce mouvement contre la loi travail. Je pense notamment aux cheminots. Donc là non plus, c'est pas terminé. Et puis, il y a un autre élément qui me paraît militer pour un délitement sur la durée de ce mouvement et quelque chose qui ne sera pas soudain, c'est le fait qu'il n'y a pas de perspective politique. On peut faire une comparaison très simple. En 2010, le mouvement contre la réforme des retraites, qui lui s'était déroulé dans l'unité syndicale mais qui avait échoué aussi, avait pour perspective l'élection, un an ou un an et demi plus tard, l'élection présidentielle, qui était une espèce de prolongement du mouvement mouvement social et de revanche par les urnes de ce mouvement social qui avait échoué. Donc il y avait une forme de perspective politique. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans cette configuration parce que la mobilisation est dirigée contre un gouvernement que ceux qui organisent la mobilisation, je pense à la CGT qui avait appelé à voter pour François Hollande et certainement un certain nombre de grévistes et de manifestants qui eux aussi avaient voté pour François Hollande, n'ont pas cette perspective politique, ce débouché politique possible, cette revanche par les urnes possible en perspective, parce que le champ politique à gauche est dans un état de ruine que tout le monde s'accorde à considérer comme assez inédit. Et par ailleurs, on ne voit pas quelle forme de reconstruction il y aurait avant les échéances prochaines dans le champ politique à gauche. Donc l'absence de perspective politique, de débouché politique de ce mouvement social, c'est quelque chose qui complique aussi, je pense, la sortie de crise.
Stéphane Sirot, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. L'information va sans doute faire polémique. 3 des 4 hommes mis en examen dans l'enquête sur l'incendie d'une voiture de police la semaine dernière à Paris ont été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Seul le 4e individu a été placé en détention provisoire. Le parquet de Paris avait requis la détention pour les 4 mis en examen. Les 2 policiers qui se trouvaient dans le véhicule incendié avaient échappé de justesse à l'incendie. Cette décision est incompréhensible pour l'ensemble des policiers, au-delà, je pense, pour les citoyens. Voilà la première réaction de Frédéric Lagache, secrétaire général adjoint du syndicat de police Alliance. La crise migratoire a fait moins de victimes depuis le début de l'année, si l'on en croit les derniers chiffres de l'Organisation internationale pour les migrations. Selon l'OIM, 1370 migrants ont perdu la vie en Méditerranée depuis le 1er janvier, 24% de moins que pour la même période de 2015. Une amélioration toute relative qui montre toutefois que les flux migratoires en provenance de Turquie sont en forte baisse, Isabelle Labéry.
Si la mer prend moins de vie, c'est d'abord parce qu'il y a moins de migrants. Syriens et Afghans abandonnent la route de la Grèce, découragés par les conditions d'accueil dans les camps et surtout la perspective d'être renvoyés en Turquie en vertu d'un accord entre Bruxelles et Ankara. En mars, la Grèce a accueilli 27 000 personnes, en avril seulement 3 000. En revanche, il y a toujours autant de candidats à l'exil depuis la Libye. Mais le pays s'implique davantage dans la gestion des flux migratoires. Florence Kim est porte-parole de l'Organisation internationale pour les migrations.
Il y a une vigilance accrue, ça c'est évident, et surtout depuis l'instauration d'un nouveau gouvernement en Libye, une plus grande stabilité. Et par conséquent, les gardes-côtes sont plus à même de procéder à des patrouilles dans les eaux libyennes. Ils ne laissent pas les bateaux, ces petites embarcations de fortune, passer les eaux internationales. Heureusement d'ailleurs pour ces migrants qui sont renvoyés donc sur les côtes libyennes.
Des migrants économiques en provenance du Nigeria, de Côte d'Ivoire ou d'Érythrée. L'Organisation internationale des migrations souligne que les demandeurs d'asile, syriens ou afghans, n'ont pas changé de route pour tenter un passage au départ de la Libye.
Isabelle Labéry, et cet accord UE-Turquie pourrait être rapidement remis en cause. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a adressé de nouvelles menaces à l'Europe aujourd'hui. Il demandera à son Parlement de bloquer l'accord s'il n'obtient pas l'exemption de visa d'ici la fin juin. L'accord négocié par Angela Merkel a pour objectif de limiter les flux migratoires vers l'Europe. En échange, les Turcs exigent la fin des visas pour se rendre dans un pays de l'Union européenne. Mais plusieurs pays européens y sont hostiles en raison des atteintes aux droits de l'homme en Turquie. Cette crise migratoire explique pour une grande part le très haut niveau de l'extrême droite en Autriche. Norbert Hofer, le candidat FPE à la présidence, a été battu d'un cheveu par l'écologiste Alexander Van der Bellen. Mais avec 49,7% des suffrages, Norbert Hofer est convaincu que cette défaite appelle de futures victoires. Le reportage à Vienne de Bertrand Galichet.
Dans la salle du Parlement où Norbert Hofer tire les leçons de sa très courte défaite, un drapeau autrichien et ceux des 9 Länder du pays, mais aucun drapeau européen. Le FPE compte parmi ses électeurs une majorité d'eurosceptiques. Cette ligne politique a contribué dimanche au score phénoménal du candidat Norbert Hofer, près de 50% des voix à la présidentielle. L'ex-candidat croit à l'avenir d'un parti qui, pour lui, n'a rien d'une formation extrémiste.
Le FPE est plus fort que jamais. Un parti qui serait d'extrême droite en Autriche n'aurait pas atteint 2% des voix. Or, nous avons atteint 50% grâce à une ligne raisonnable et des réponses claires.
La stratégie de dédiabolisation développée par Norbert Hofer pendant la campagne présidentielle a fonctionné. En évitant tout dérapage xénophobe, le FPE FPE a conquis une part de l'électorat qui jusque-là le jugeait infréquentable. Cette progression à la faveur de la crise des migrants déroute les formations traditionnelles. Dans l'électorat populaire, les ouvriers ont voté Hofer à 71%. Le parti vise désormais la chancellerie.
Bertrand Galichet avec Fabien Gosset pour les moyens techniques. Un mot de la météo demain. Nuages et averses sur une large moitié ouest du pays. Partout ailleurs, les éclaircies seront majoritaires.